comprends pas la moitié, là.
Mamie, elle a des choses à dire. On ne peut pas la faire taire, alors. Faisons
la
parler mamie.
Mamie.
Comment tu t'appelles, mamie?
Oh, c'est qui?
Radio Fribourg.
C'est qui?
Mais, oh.
Radio Fribourg. Qu'est-ce que vous venez faire dans le canton de Vaud, Radio
Fribourg? Mais franchement, la broie, les vaudoises et fribourgeoises, je te...
Tu me parles autrement, hein?
Alors, comment, ton petit nom, c'est quoi?
Au bout des feuilles.
Comment?
C'est qui est au bout du fil?
Alors?
C'est Radio Fribourg.
Ouais, ben j'ai compris que c'était Radio Fribourg.
C'est Riette et Tanyo, c'est mon mari.
Donc, petite chérie de Bibiche.
Ouais, ma Bibiche. Je te repasse Bibiche?
Ouais, merci.
Ouais, bon app, hein?
À bientôt, mamie, hein?
Je crois qu'elle aime bien, elle va garder mamie.
Oui, ça, très bien.
Ça lui va bien.
J'ai peu stressé maintenant.
Ah, d'accord, mais alors tu avais quel âge?
Non, sérieusement, Bibiche. T'avais 6 ans quand t'étais sur ce tricycle et puis que t'étais bourrée, c'est pas possible. Dis la vérité.
Non.
Ah, non.
Quel tricycle?
On a retrouvé des traces d'ADN, alors tu vas pas. Tu ne peux pas nier.
Dis donc, t'as des enfants, Bibiche.
Mais moi, j'étais pas sur un tricycle, j'étais à la maison.
Ça sonne? Bah, normalement, ça devrait.
Non, j'ai des.
Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un?
Oui.
Ah, c'est qui?
Est-ce que Bibiche reconnaît cette voix?
Quelle voix?
Tu connais pas? Tu reconnais pas cette voix?
Attends, l'autre, elle tourne sa fondue, là. Elle nous fait un tchichina, pas possible. Elle va se calmer, la mamie. Bon, Bibiche, tu reconnais pas l'autre personne au bout du fil, sérieux?
Hein? Non, pas du tout.
J'y crois pas.
C'est pas possible.
Je n'y crois pas. Bonjour, papa. Je te présente le fils. Bonjour, le fils. Je te présente ton papa.
Non. Non. Parce que moi, j'ai pas de fils aussi con que ça. Je me pose des questions quand même, des fois.
Dis donc, fiston.
Oui.
Tu as le fils à ton père.
Oui, exactement.
Mmh. Ah ben, ça promet. Et c'est quoi cette histoire de tricycle? Maintenant, on veut en savoir plus.
Dis
alors,
donc,
on demande au fiston.
Ouais, explique-nous, fiston.
Alors, bon, bah, c'est une histoire parmi tant d'autres, parce qu'il y en a tellement à raconter. Mais...
Ça, on te croit.
Mais le coup du tricycle, c'est qu'il était, si je me trompe pas, avec un ami, parce que mon grand-père avait un Carnot,
ouais.
Et il faisait encore le jambon fumé en ce temps-là, avec des tonneaux de vin et tout. Mmh. Et il avait, je crois, si je me trompe pas, 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Il était en tricycle, donc.
Il est bien, ouais.
Voilà, donc bien, ouais, tôt, quand même. Hein.
Bah voilà, bravo.
Et puis, il s'est retrouvé au Carnot avec son ami. Bon, bien entendu, il a fini un peu cuit. C'est clair qu'à 3 ans, il a pas bu.
Mais quelle horreur!
Dis donc,
et le plus beau, c'est qu'il est fier de raconter, donc c'est pour ça que...
Pas chez nous, en tout cas.
Je pouvais pas oublier ça, quand même. Ouais, il y a une grosse liste, alors je les garde pour plusieurs fois.
Oui,
pour
oui, on rappellera papa 2-3 fois.
Et puis, si vous êtes là dans ta bourrée, j'ai mon fils.
D'accord.
Ils sont terribles, ces deux. Mais vous vous aimez derrière tout ça?
On s'adore.
Vous vous aimez derrière tout ça?
On s'adore.
Ah, vous vous adorez, ouais. Ça me rassure.
Bon tabouret, Bibiche. Bonne soirée, bonne nuit. À bientôt, hein.
Salut à la mamie, hein, devant sa fondue, hein.
Merci.
Merci.
Ciao.
En vous remerciant. Ciao. Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Voilà une étude du jour très, très, très intéressante.
Bon, comme d'hab, j'ai envie de... parce que tu sous-entends que des fois nous avons des études qui ne sont pas intéressantes.
Non, mais j'ai mis très très très. Alors des fois il y a très très, des fois il y a traité, il y a une, deux et trois étoiles.
Ouais, il y a plusieurs niveaux.
Ouais, il y a plusieurs niveaux.
C'est comme Google Avis en fait.
Ouais, ouais, c'est ça.
Donc là on est sur 5 parce que le max c'est 5.
Ouais, moi je pense qu'on est sur 5, mais attends, j'attends de voir l'étude. Hein. Peut-être qu'elle est complètement pourrie derrière.
Alors vas-y.
Mais parce que toi tu as trouvé cette étude merveilleuse.
Oui, non, mais je te laisse la faire surtout.
Et qui nous dit qui parle le plus, les hommes ou les femmes?
Voilà, et là
ça,
tout
c'est
le monde.
Intéressant.
Et tout le monde va se dire quoi?
Ouais, ouais.
C'est les nanas.
Et un peu de suspense, oui. Alors, qui parle le plus, les hommes ou les femmes? Dans ton entourage, tu connais... Allez, prends les 3 personnes qui parlent le plus et dis si c'est mec-mec-fille.
Alors, j'ai mon meilleur ami qui parle beaucoup, beaucoup. Donc, garçon, ma meilleure amie fille, beaucoup... ouais, mais enfin, sur 3, oui, j'ai peut-être 2 filles et 1 mec, quoi.
Moi, j'ai connu une fille qui surpasse tout le monde.
Ah oui?
Ah ouais, parce que en fait, c'est une personne qui parle tellement qu'elle fait des monologues. C'est-à-dire qu'elle ne t'écoute pas et donc elle te laisse même pas le temps de rebondir sur ce qu'elle dit.
Ah ouais, c'est chaud.
Donc
ça,
elle est en non-stop.
Elle est en roue libre tout le temps.
Ah, mais
en fait,
moi, j'étais fatigué le soir.
Oui, c'est fatigué. Oui.
Et puis, t'arrives pas à en placer une.
Et pourtant, nous, on parle beaucoup aussi.
Et pourtant,
hein,
on parle.
On peut être fatigant aussi.
Ah, moi, je peux être fatigant.
Se fatiguer nous-mêmes
on
aussi.
Se fatigue,
n'ayons
bien sûr
pas peur des mots.
Mais en fait, bon ouais, voilà, c'était
bon,
une
voilà,
femme
okay,
qui surpasse tout le monde. Après, je connais un mec aussi qui parle pas mal, mais
ouais, enfin franchement,
mais t'arrives
ouais,
à arrêter
un peu tout quand même.
t'arrives à arrêter. Contrairement
écoute,
à elle.
Je peux en placer une là, hein? T'es gentil. Ouais.
Bon alors quoi?
Alors quoi cette étude?
À ton avis, c'est qui alors les femmes?
Moi, je dirais parce que c'est enfin, ça peut être mon con, mais c'est des idées reçues qu'on a, et puis on a tout en général, on dit tous que c'est les femmes qui parlent plus que les hommes.
Bah oui, bah là, on a approfondi le sujet et effectivement, les femmes.
Ah donc c'est une réalité.
Bah oui.
Ouais, mais bon, ils sont basés sur quoi, là, nouveau? Parce
ah bah,
que...
le nombre de mots, tiens.
Mm-hmm.
3000 mots de plus que les hommes.
On dit 3000 mots de plus que les hommes.
Tu te rends compte?
Elle ah oui, parle... c'est beaucoup, hein.
Ouais, ouais, bah c'est ça. Hein.
Non, mais attends, ça ne veut pas dire qu'on parle plus, ça veut dire peut-être qu'on a plus de diversité dans notre langage. Excuse-moi. Hein. Non, ce n'est pas la même chose. Hein. Je pointille.
Il y a eu 630 000 enregistrements de 22 études menées, donc c'est un truc très,
ouais,
très
quand
sérieux
même, hein,
quand même. Hein. Des échantillons 4 fois plus importants que ceux qui ont été étudiés jusque-là quand même.
Ouais.
Et les femmes parlent beaucoup plus que les hommes. Voilà. Mmh. Et puis on découvre une différence entre les gens, mais aussi au niveau du nombre de mots prononcés par jour.
Ah voilà.
C'est ça. Ça veut dire 3000 de plus par jour. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que bah, les femmes âgées, bon là c'est large, hein, de 25 à 65 ans, c'est là
ah
que
oui,
ça a été étudié,
ouais, c'est large,
disent en moyenne 21 845 mots de plus par jour.
Oh.
Enfin, non, c'est faux. 21 845 mots par jour,
ouais,
soit 3000 de plus que les hommes, voilà.
Ah ouais, c'est beaucoup
c'était
quand même.
C'était pour être
hein,
sûr du business. Alors, oui,
bon,
c'est beaucoup.
D'accord, d'accord. Bon, après, est-ce que c'est vraiment dérangeant? Enfin, c'est pas une critique, tout ça, hein?
Bah non. Bah, écoute,
plus,
ça met un peu
tout
d'ambiance, et puis c'est tout, quoi.
Mais moi, je pense que tout dépend de la personne avec qui... Bah, regarde-nous, bah, homme-femme, et on parle autant l'un que l'autre, sérieusement.
Non.
Comment ça, non? Non. Tu crois que je dis 3000 mots de plus que toi?
Je pense
ouais,
que tu
c'est
dis
vrai,
3000 mots de plus que moi.
C'est vrai.
Parce que moi, des
en fait,
fois, je me
rends même plus compte.
Des fois, je me tais, hein, pas toi.
Oui, c'est vrai. Ok, bon, bah, on va valider les filles, on valide cette étude, quoi.
Bah oui,
d'accord,
malheureusement, ouais. Hein.
Non, bah écoute, assumé.
Tu vois, t'as même le dernier mot.
Bah ouais, bah oui. Comme d'hab, hein.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Fribourg, Radio FR.
Jamais sans.
Jonathan, bonjour, l'enquêteur musical
bonjour
de Radio Fribourg. Alors c'est drôle parce que c'est un peu la suite de notre chronique de vendredi. On avait brièvement évoqué un groupe et un scandale. On va en parler plus en détail aujourd'hui. Hein.
Exactement, je crois qu'on a presque tout dit, c'est ce titre.
On en parlait vendredi,
ah,
la Lambada.
Ouais,
parce qu'il était question de reprise avec ABBA qui avait volé un thème à un groupe oublié. Et puis tout de suite, ça m'avait fait penser à ça. Et tu t'es dit, bah voilà, il fallait qu'on en parle aujourd'hui.
Tout à,
hein,
tout à fait. Parce que ça, c'est quand même l'énorme scandale. La Lambada, qui est donc une danse au Brésil, une danse en couple corps à corps, semble-t-il. On ondule des hanches et les épaules tout en plaçant de temps en temps un genou entre les jambes de son partenaire. On va pas le faire ce matin.
Non, il y a les caméras qui sont allumées, on va éviter. Mais est-ce que tu sais danser la lambada? T'as déjà essayé?
Non, alors j'ai jamais essayé, je suis piètre danseur. Donc
non, bah, t'es comme moi, alors. Moi, je suis trop maladroit. Moi, je tombe, je bouscule ma partenaire, je lui marche sur les pieds avec mon 45.
Un genou entre les...
Oh là
les
là, non, on va éviter, on va éviter le matin.
Donc, pour revenir au titre en lui-même, la lambada, donc du groupe Kaoma, il y a scandale, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une reprise, enfin plutôt un plagiat d'un groupe bolivien. Les producteurs français qui ont rapporté du Brésil la lambada en 1989, ils n'ont pas déclaré le nom des auteurs de la version originale de la chanson. L'affaire va donc se régler devant les tribunaux et les droits d'auteur de la lambada vont donc être entièrement reversés au groupe bolivien en 1991.
Et
donc,
ça se chiffre en millions, je crois.
Des millions, bien évidemment.
Ça,
parce que ça avait cartonné
carton,
hein, à sa sortie en 1989 pour la lambada. Et j'ai justement trouvé l'original.
Ah,
je vais vous
voilà,
faire découvrir l'original qui s'appelle donc Lorando Sefue. Je crois que c'est comme ça qu'on dit.
Enfin, bon, là, Thierry Savary, c'est lui
le groupe. Voilà, hein, exactement, pour l'espagnol, je ne sais pas. Avec Jarcas, c'est le groupe en 1981.
Ah ouais, non, c'est exactement la même mélodie. Chose. Les arrangements ne sont pas les mêmes, le tempo non plus, mais c'est la mélodie tout craché.
La mélodie, tout à fait. Très populaire en Bolivie d'ailleurs, encore aujourd'hui. Vous chantez la lambada en Bolivie, on va vous citer ce groupe, hein, pas d'autres. La mélodie de la lambada qui a inspiré d'autres artistes, vous avez une idée comme ça
Non, alors pas comme ça. Pas comme ça.
C'est Jennifer Lopez par exemple.
Mais oui. Toujours la même chose quand on l'entend, on se dit mais oui.
Mais bien sûr. En 2011, et puis Don Omar aussi en 2010.
Ouais. Ah bah c'est bonne vieille mélodie.
Voilà, c'est des mélodies
qui font toujours recette. Hein.
Exactement.
On recycle comme ça de temps en temps. Hein.
Bah, je pense qu'on va encore la recycler, ça va continuer cette lambada. Bon. Elle va rester dans l'inconscient collectif.
On n'écoutera plus jamais la lambada de la même manière. Et attention pour une prochaine enquête musicale. Cette fois, on allume les caméras dans le studio et Jonathan danse la lambada pour nous.
Je serai là.
Faut juste qu'on trouve quelqu'un qui accepte de danser avec toi. Moi, je suis pas assez bon, j'ai pas envie de te faire mal. Hein.
Non, on va pas prendre de risques.
Allez, bonne journée, à bientôt.
Radio FR.
Jérémy Croza demain matin, 7h26.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Allez, c'est l'heure de notre arrêt télé. On a regardé la grande semaine, cette nouvelle émission sur M6, pour remarquer que le rire, c'est bon pour la santé. Un président suisse l'avait déjà dit.
Le yoga du rire, c'est un médecin indien, le docteur Malan Kataria, et sa femme qui est professeur de yoga, qui ont mis au point ce concept du rire sans raison. Le rire étant communicatif, avec l'effet de groupe, on arrive très vite au rire naturel. Fait semblant de rire, notre corps va sécréter quand même toute cette chimie joyeuse que j'appelle la dose, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Un enfant rit en moyenne 300 à 400 fois par jour.
Ouais.
D'accord ? Donc il est vraiment dans la spontanéité, il joue, enfin il rit par pur plaisir, il s'amuse. On dit qu'un adulte rit en moyenne 18 fois par jour. Donc plus on grandit et plus on perd cette faculté à rire en fait.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Allez, c'est l'heure de notre arrêt télé. On a regardé la Star Academy sur TF1. Alors, il y a des artistes qui ne chantent pas. Ils gémissent et vont même jusqu'à geindre. Mais bon, c'est normal, on leur apprend tout ça.
Là, on n'est plus dans « je chiale, mais je geins ». Je geins.
Je geins.
Je geins.
Je geins.
Écoutez-moi.
Écoutez-moi.
J'en ai marre, marre, marre. Marre. Enfin, cherche-moi des choses comme ça.
J'en ai marre.
Voilà, exactement.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
On en a parlé la semaine dernière dans tous les médias, la fameuse intelligence artificielle made in France. Elle s'appelle Lucie, elle a disparu, ça y est.
Elle n'est pas restée longtemps, Lucie, hein, ouais, en Lucie, activité. Ouais.
C'est-à-dire qu'elle avait un peu des problèmes. Lucie, elle répondait un peu n'importe quoi aux questions. Hein.
Elle était un petit peu à côté de la plaque.
Surtout en maths, elle n'était pas douée en maths. Hein.
Non.
5... entre parenthèses, 3 plus 2 égale 17. Comment tu arrives à ce résultat? Alors, elle donnait des trucs complètement débiles. Ça arrivait à 50. Enfin, ouais, en gros, elle essayait de répondre, mais d'après l'équipe de développeurs de Lucie, elle était publiée trop vite. Bah, tu m'étonnes si elle répondait n'importe quoi.
Bah, évidemment, ils n'ont pas fait des tests assez longtemps. Ils ont voulu sortir le truc parce que tout le monde s'y met de plus en plus. On dit, bah, concurrencer.
Bah oui, il y en a qui demandaient, bien sûr, quelle est la racine carrée d'une chèvre et des conneries comme ça. Et évidemment, Lucie répondait des réponses mathématiques.
Ah ouais. Bon, voilà. Bah, écoutez.
Tu l'as dit, ChatGPT répond aussi un peu n'importe quoi, la racine carrée d'une chèvre. Mais enfin, il n'y a que toi pour demander ça, hein.
Alors, justement, je veux dire, tout dépend de la question qu'on pose aussi. Moi, à chaque fois que j'ai eu recours à ChatGPT, je trouvais que c'était hyper bien détaillé. Alors, vous savez ce que je pense, moi, de... Je suis pas très pour l'intelligence artificielle parce que je pense que ça va détruire beaucoup de choses.
Parce que t'as bien peur que ça te dépasse.
Oui, mais pas que moi. Enfin, que ça détruise beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand t'as des questions un peu sensées, je peux dire ça comme ça. Moi, le peu de fois où j'ai utilisé ChatGPT, franchement, j'étais hyper étonnée en bien, j'avoue, des réponses.
Moi, je trouve...
C'est un truc
j'ai
fou,
utilisé assez...
au démarrage et j'étais un peu déçu de certaines réponses. Et je pense, même pas une semaine après, je voyais déjà l'évolution déjà, ouais, des réponses. Je reposais la même question et j'avais des réponses. Et ce qui est étonnant, c'est que tu poses une question sur un truc qu'il ne connaît pas. Pas encore, on va dire. Exemple, connais-tu Radio Fraîche ? Il y a très longtemps, j'avais demandé, connais-tu Radio Fraîche ?
Ah, ok. Qu'est-ce qu'elle
et il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Après, tu réponds, bah, Radio Fraîche est une radio basée en Suisse romande, disponible en DAB+. Tu reviens deux jours après, tu dis, connais-tu Radio Fraîche ? Et il te répond, Radio Fraîche est une radio basée en Suisse romande, en DAB+. Il répond en fait ce que tu lui as dit.
Oui, oui.
Et donc, c'est peut-être comme ça que ça marche. Si tu donnes des informations, bah, après, si tu dis n'importe quoi, justement, ça alimente le n'importe quoi aussi.
C'est ça.
Alors justement, est-ce que ChatGPT connaît cette émission brillante qui s'appelle Les Neuneux ? C'est ce qu'on va vérifier. Virginie, t'as ChatGPT sur ton téléphone en fait ?
Et à fond.
Ah ouais ?
Et on a fait le... Bah, du coup, j'ai demandé à ChatGPT s'il pouvait m'expliquer ce qu'était un neuneux.
Ouais.
Et ChatGPT connaît le terme neuneux qui, effectivement, dit que c'est une expression familière en français qui signifie simple d'esprit, bah, ou un peu bête ou naïf, ce qui nous correspond
parfaitement,
plutôt bien. D'une manière légère et parfois moqueuse de parler de quelqu'un qui manque de finesse ou d'intelligence. Mais c'est tout nous.
Voilà, c'est ça. Bah, cette émission est bien nommée.
Oui, oui, bravo.
La bien nommée émission des neuneux. Bravo.
Bah, il donne un exemple. Par exemple, c'est affreux. Il est un peu neuneux, mais il est gentil.
Ah ouais, c'est ce qu'on dit
ça,
toujours.
On dit souvent ça.
Non, mais on est très gentil, hein, c'est
on
vrai.
Est
très...
Oui, alors ça, on a le cœur sur la main. On est effectivement des fois un peu naïf et un peu bête, mais on est gentil.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
12.
C'est une autre histoire.
Il s'empare du micro de Radio Fribourg tous les mardis entre 8h et 9h. C'est sa tranche horaire, il le fait tellement bien. Bonjour Alain-Jacques Tornard.
Bonjour Mike.
Comment va l'historien de Radio Fribourg aujourd'hui ?
Très bien, très bien.
Vous êtes baladé le week-end dernier, vous avez toujours des bonnes idées d'excursion. C'était d'autant mieux le week-end dernier que c'était week-end prolongé, c'était l'Ascension. Vous en avez profité pour visiter les mines d'asphalte du Val de Travers et vous avez adoré cette excursion.
Oui,
hein.
Alors, j'avais fait, dans mon jeune âge, un tour de Suisse en vélo.
Il a été sportif.
Oui, et c'était en 87. Ça venait d'ouvrir, surtout, parce que ces fameuses mines étaient exploitées jusqu'en 1986, l'asphalte. Alors, moi, j'ai toujours été fasciné par ce produit, hein, qui avait permis de faire de belles routes. D'ailleurs, vous savez que Même du côté de la porte de Brandenburg, à New York, à Londres, on utilisait l'asphalte du Val de Travers, qu'il ne faut pas confondre avec l'invention d'un Suisse, le docteur Goudron. Je crois qu'on en avait parlé. Parce que le Goudron, moi, longtemps, j'ai cru que c'était la même chose.
Le Goudron est
à base de charbon, tandis que l'asphalte, c'est un produit typique.
Ça vient du pétrole à la base.
Exactement. Et c'est quelque chose qui était donc très en vogue dans ce fameux Val de Travers. Mmh. Bon, moi je vous cacherai pas, Mike, que je suis retourné en famille. Je voulais à la fois faire découvrir ces mines d'asphalte parce que vous savez que moi je suis né dans le nord de la France. On a des mines de charbon, qu'on peut visiter. Mais là, ces mines d'asphalte, c'est quand même typiquement helvétique. Enfin, même le régional, il y en a pas d'autres en Suisse de ce type. Mais surtout, ils cuisent un jambon extraordinaire.
Je vous vois venir, le jambon à l'asphalte.
Vous connaissez ça, Mike.
Qu'est-ce que vous croyez ?
Alors, c'est pour ça que cet endroit est littéralement magique. Déjà, on peut y accéder en voiture, on peut y accéder en train aussi.
C'est très pratique.
On peut y aller en vélo. Et puis, il y a même un jardin, une sorte de jardin qui des mineurs, tout ça. Alors, en plus, c'est très sympathique parce que, hors antenne, nous évoquions avec Mike la présence des chevaux autrefois dans ces mines d'asphalte.
Oui, c'était des pages absolument terribles. Tout le monde a vu Germinal, film ou la série.
Sauf que là, dans Germinal, les chevaux restaient à l'intérieur. Tandis que là, c'était pas le cas. Ils sortaient à l'extérieur le soir. Donc, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on a à la fois des mineurs, mais qui ne souffraient pas de la silicose, puisque c'était pas des mines de charbon. Voilà, donc
il faut savoir que ces mines ont appartenu à l'époque à Philippe Suchard, les chocolats Suchard. Oui. Et Philippe Suchard avait la réputation d'être vraiment le patron modèle. Il envoyait ses ouvriers en cure quand ils étaient malades, ils refusaient qu'on fasse travailler les enfants en dessous d'un certain certain âge, un patron paternaliste comme il en existait peu à l'époque.
Exactement. Et ensuite, ça a été repris par les Anglais. C'est au début du 20e siècle, ce qui veut dire qu'il y avait toute une famille qui parlait anglais dans le Val de Travers. Ça a dû peut-être modifier l'accent de ces Anglais. Parce que l'accent, tiens, ça me fait penser qu'on a un ami commun là, qui vit là-bas, Dominique, on le salue très cordialement.
Fidèle auditeur de cette émission, effectivement.
Exactement. Et donc, ces Anglais, en fait, ont pu faire perdurer ces mines jusqu'en 1986. Mais ils ne pouvaient plus concurrencer l'asphalte venant d'Amérique centrale. Il y a Trinidad qui a littéralement un lac d'asphalte. Et donc, c'était beaucoup plus facile à exploiter, beaucoup moins cher, etc. Donc, on a carrément fermé les mines et on en a fait un musée. Et un musée où, en même temps, on peut goûter donc, les produits du terroir. C'est ça qui est intéressant. Une boutique qui est avec des produits. J'ai pas trouvé d'ailleurs, des fois les boutiques, vous savez, ces boutiques de musées sont des prix des fois un peu quand même.
Parfois ils abusent de la situation.
Pas du tout. On a donc les fromages de la région. C'est une région.
Vous êtes allé pour visiter ou pour manger finalement hein.
Mais écoutez, Mike, comme il y avait la fête des mères françaises,
voilà.
j'ai pensé que ça pouvait être un joli petit cadeau pour la.
pour votre compagne Gilliane.
Tu as droit à deux fêtes des mères, la Suisse et la française. Donc, non, c'était un endroit enchanteur. Et ensuite, d'ailleurs, apparemment, nous étions allés joindre ça avec la visite à Cernier d'une sorte de grand jardin pour les enfants, didactique, etc. Donc, c'était. Il y a beaucoup à faire dans cette région qui n'est pas éloignée de la nôtre.
J'ai eu le plaisir de visiter ces mines d'asphalte il y a quelques années, moi aussi. J'ai adoré. Surtout que moi, j'avais pris le forfait. Vous pouvez soit vous faire guider par des gens voilà, qui connaissent, mais sans plus. Autrement, vous avez la possibilité de vous faire guider. Je ne sais pas si ça existe toujours, par des anciens mineurs. Et là, vous avez vraiment des témoignages très, très, très intéressants. C'est ce qui m'avait manqué quand j'avais visité les mines de sel de Baie, hein, qui sont un site absolument magnifique. Mais voilà, quand j'y étais, c'était les vacances. Vous êtes guidé par des étudiants qui connaissent leur texte par cœur, mais vous essayez de leur poser des questions un peu plus pointues. Ils ne savent absolument pas répondre. Alors que là, j'ai la chance d'être guidé par quelqu'un qui, c'était le métier. Il avait quelque chose de très poignant hein, dans cette visite.
Un
bon souvenir.
Ça a fermé en 86. On a encore des gens de ma génération, même des fois un peu plus jeunes encore, à disposition.
Voilà. En tout cas, une idée de sortie qu'Alain Jacques et moi-même vous recommandons. Les mines d'asphalte du Val de Travers, ça se visite évidemment en famille.
En plus, en été, il ne fait pas froid dedans.
Il y a les inversions thermiques, effectivement. Vous avez bon frais là-dedans. Il faut prendre la petite laine. Hein. On va revisiter l'histoire également. Vous connaissez le principe de cette émission, les événements que nous commémorons aujourd'hui. Alors, très triste événement, l'un des plus pénibles de l'histoire des États-Unis, le massacre de Tulsa, hein, qu'on va évoquer dans quelques instants avec Alain-Jacques Tornard. On ne manquera pas non plus l'édito de notre historien Elon Musk, hein, l'homme le plus riche du monde, qui est un libertarien. Hein, il aimerait un Twitter sans aucune censure. Que sont exactement les libertariens? On l'apprendra un petit peu plus tard dans cette émission. On écoute tout de suite Jimmy Cliff avec Reggae Night sur Altsuite. Hein.
C'est une autre histoire.
C'est même l'un des événements les plus pénibles de l'histoire des États-Unis que vous vous apprêtez à nous conter, Alain-Jacques Tornard. Tout commence pourtant de manière anodine. Un jeune cireur de chaussures afro-américain âgé de 19 ans trébuche par mégarde contre une jeune fille blanche. Le garçon est arrêté. La communauté afro-américaine craignant un lynchage débarque avec les armes pour libérer le jeune homme. S'en suivra l'un des pires déchaînements de violences meurtrières contre les afro-américains de toute l'histoire des États-Unis. Et l'historien de Radio Fribourg a choisi ce matin de revenir sur le massacre de Tulsa dans l'Oklahoma. C'était Alain-Jacques Tornard entre le 30 mai et le 1er juin 1921.
Oui, tout à fait. Alors, je ne connaissais pas cet événement-là et je me suis rendu compte que c'était un des grands événements tragiques occultés aux États-Unis. Mmh. Et pour cause, hein, nous sommes ce 31 mai 1921, tout cela. Ce jour-là, les Américains rendent hommage à leurs soldats morts au combat. C'est le Memorial Day, donc c'est festif. Hein. Et puis ce jeune cireur de chaussures de 19 ans se retrouve dans un... qui désire se rendre tout simplement aux toilettes.
C'est le seul endroit où les Afro-Américains ont le droit d'aller aux toilettes. Hein,
voilà, exactement. Mais dans l'ascenseur, vous vous rendez compte, il écrase sans faire exprès le pied d'une jeune fille blanche de 17 ans.
Voilà, qui était préposée au fonctionnement
Sarah
de l'ascenseur.
Page, hein. Voilà, celle-ci affirme que le jeune homme a tenté de l'agresser. Dick Rowland est aussitôt arrêté et mis en prison. Ce sera le point de départ d'un lynchage, d'une violence sans précédent. Et je rappelle, nous ne sommes pas au 19e siècle, nous sommes au 20e siècle, il y a un siècle. siècle. Alors, en effet, en fait, à l'époque, le lynchage est malheureusement une pratique assez courante dans le sud des États-Unis. J'allais dire que c'est presque une tradition locale, si on voudrait être absolument cynique. Alors, en effet, les habitants blancs de la ville, les noirs les craignent beaucoup. Et c'est pour cela que ceux qui habitent dans le quartier de Greenwood, se rendent en masse au palais de justice pour éviter qu'on lynche le jeune noir. Alors, le quartier de Greenwood, c'est quelque chose de particulier. Vous savez, on imagine toujours les banlieues noires, pauvres, tout ça. Non, c'est une banlieue prospère. Mm-hmm. Et c'est ça que ne supportent pas les blancs de l'endroit. C'est que Greenwood est un quartier noir, mais prospère. Ce qui prouve que les noirs peuvent être les égaux des blancs. Ce qui leur est absolument insupportable. Et le lendemain, des incendies criminels sont déclarés dans le quartier, parce que forcément, il y a des incidents qui se déclarent. 1250 maisons, 131 entreprises prennent feu, justement, dans ce quartier de Greenwood, que l'on appelle le Wall Street noir. Donc, c'est pas pour rien. Ouais. Et donc, des Afro-Américains sont tués dans la rue, exécutés dans la rue même. Hein. Il se trouve même, alors ça, c'est la pire des choses que j'ai pu rencontrer quasiment dans cette histoire, c'est qu'on utilise, vous savez, on utilise dans cette région agricole des avions d'épandage pour les engrais, les pesticides, tout un symbole. Eh bien, on va les utiliser pour bombarder les Noirs. Et donc, wow. On dit que dans l'histoire des États-Unis, donc dans l'histoire même mondiale, c'est l'un des premiers bombardements aériens de populations.
Ouais. Il leur lâche des bâtons de dynamite, je crois.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, vous avez bien entendu, des bâtons de dynamite. Hein. Mmh. Donc, ce sont environ 300 personnes qui sont tuées. En fait, on n'a jamais compté. Hein. Vous savez, c'est souvent comme ça, les gens qui ne comptent pas, on compte pas leurs morts.
C'est seulement depuis 10 ou 20 ans qu'on ose parler de ce massacre. Hein.
Exactement.
Dans les manuels scolaires, par exemple, ça a été très longtemps occulté.
Ça a été totalement occulté.
On sent qu'il y a une honte terrible. Voilà,
exactement. Il faut dire aussi que les corps ont été jetés dans la rivière Arkansas. Mmh. 8000 personnes ont perdu leur maison. Le comble, c'est que la police prétend que ce sont les Noirs qui sont les fauteurs de troubles. Plusieurs d'entre eux sont arrêtés, tandis que les véritables criminels continuent de se promener librement. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de poursuite. Mmh. Il faut attendre le 2 juin pour que la garde nationale arrive à tout cela et qu'elle va interner 6000 Afro-Américains dans des camps. Il a fallu attendre 2021 pour qu'on inaugure enfin, le 2 juin 2021, le Greenwood Rising. C'est une sorte de musée mémorial auquel, d'ailleurs, le président des États-Unis va participer à l'inauguration. Il y a eu plusieurs documentaires. Maintenant, il y a eu aussi des séries de télévision là-dessus. Une semaine après avoir reçu à la Maison-Blanche la famille de l'Afro-Américain John Floyd, vous vous souvenez de l'histoire de Floyd, le 25 mai 2020, Joe Biden a été présent aux commémorations à tout cela. Et en fait, les États-Unis tentent, d'une certaine manière, de mettre fin à leur amnésie. Le plus important lynchage jamais mené sur le sol américain constitue le paroxysme des tensions raciales dans l'Amérique ségrégée, comme on dit, la ségrégation raciale du début du XXe siècle. Pourtant, comme vous le disiez tout à l'heure, jusqu'au début des années 2000, on n'en entendait jamais parler.
Ce qui est terrible, c'est que les fusils d'aujourd'hui encore, même si on n'est plus dans le même contexte, il ne vous a pas échappé ce qui s'est passé la semaine dernière dans cette école.
Hein. C'est pour ça que je trouvais intéressant de traiter ce sujet, parce qu'on voit bien qu'on a la gâchette facile, mais aussi la gâchette facile de masse. Quoi. Le coup a été exorbitant, et bien entendu, cela a créé beaucoup de ressentiment aux États-Unis, parce que cela est resté dans la mémoire des Noirs.
Le massacre de Tulsa, siècle.
Oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, on a empêché en plus ce quartier de se redévelopper ensuite en créant des règlements très durs pour la construction des maisons. Tellement on avait peur que le quartier noir devienne prospère.
On va rester aux États-Unis dans quelques instants avec l'homme le plus riche du monde. Il s'appelle Elon Musk. Hein, c'est lui qui rachète Twitter en ce moment. Il veut en faire un espace de liberté totale. Et ça fait peur parce qu'on se dit qu'il peut y avoir toutes les dérives. Mais bon, voilà. Elon Musk est ce qu'on appelle un libertaire. Hein, que sont exactement les libertariens? On va en parler dans quelques instants, dans la suite de C'est une autre histoire avec Alain-Jacques Tornard. Avant cela, l'actualité avec le Fribourg.
C'est une autre histoire.
Avec une fortune estimée à plus de 190 milliards de dollars, Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Le milliardaire sud-africain installé aux États-Unis n'est pas que le papa de la Tesla, la fameuse voiture électrique haut de gamme. Il est aussi actif dans la construction, dans l'aéronautique, dans l'intelligence artificielle. Et puis si on parle énormément d'Elon Musk depuis le mois d'avril dernier, c'est pour son rachat fracassant de Twitter, le réseau social dont il souhaite faire un espace de liberté totale sans la moindre censure. Car Elon Musk est ce qu'on appelle un libertarien. Ce courant de pensée qui existe avant tout dans les pays anglo-saxons et qu'il est difficile, Alain-Jacques Tornard, de cataloguer selon nos critères habituels gauche-droite.
Eh oui, libertarien, le mot est lâché. On pense aux anarchistes presque un peu, hein, le côté... ou anarque. Moi, je me souviens du mot forgé par Ernst Junger, c'est-à-dire une sorte d'individualiste de droite. Mais non, c'est pas tout à fait ça. Hein. On a dépassé cela. Alors bon, là où ça nous fait peur, c'est le fait que ça soit lié à Twitter, ce monde vraiment qui s'ouvre devant nous et dont il voudrait faire un espace justement libertarien. Ça désigne des libéraux radicaux qui prônent la liberté absolue des individus de faire ce qu'ils veulent de leur personne, de leur propriété, avec pour conséquence qu'ils n'empiètent pas sur celle des libertés des autres. C'est déjà ça, ma liberté commence là où finit là où
La phrase est connue. Commence, hein. Hein.
Mais là, le problème, c'est que il n'y a pas la philosophie qui va avec. Parce qu'on pourrait penser à l'individualisme si cher à mon philosophe que prédilection Friedrich Nietzsche. Mais il faudrait qu'il y ait même une pensée qui va dans le sens de la responsabilité individuelle. Parce que pour les libertariens, toute interaction entre humains doit être volontaire et consensuelle. Prendre l'initiative de la force physique contre une autre personne ou la propriété de celle-ci, menacer de le faire ou commettre une tromperie contre toute personne constitue une violation de ce principe. Mais ben là, c'est joli sur le papier, sur le principe, justement. L'usage de la force est illégitime, sauf pour se défendre. Mais qu'est-ce qu'on entend par se défendre ? Quand les Américains disent qu'ils vont se défendre, souvent ils attaquent.
Hein, voilà, ils prennent les armes, on en a parlé
voilà,
tout à l'heure.
Exactement.
Hein.
Sur l'affaire de tout à l'heure, de tout cela, on pourrait, dans les deux cas, parler de légitime défense si on interprète les choses d'une certaine manière. Alors, c'est surtout la position, naturellement, des libertariens vis-à-vis de l'État, qui fait apparaître d'ailleurs deux tendances. Hein, une tendance, le minarchisme, la théorie politique qui considère que les pouvoirs de l'État devraient être très restreints.
Certains sont même contre les impôts, par exemple.
Voilà, alors c'est un peu le libéralisme classique qu'on retrouve d'ailleurs en Suisse avec les radicaux, qui prônait par exemple le moins d'État. Hein, on voit d'ailleurs dans le canton de Fribourg, on dit qu'il faut moins d'impôts, donc on voit bien que là, on est dans une certaine tendance. Et puis il y a ce qu'on appelle l'anarcho-capitalisme, c'est presque bien sûr contradictoire, qui prône la suppression des pouvoirs de l'État et l'instauration d'un droit privé. Alors vous voyez là, on voit venir le côté américain, hein, où le peuple prend le pouvoir, mais en fait c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle. Donc il a un sens proche, ce mot libertarien, de celui libertaire, avec une connotation, je dirais, plus individualiste, moins socialisante, hein, bien entendu. S'oppose au terme d'ailleurs presque libéral qui peut être teinté d'étatisme tel qu'il est en usage aux États-Unis. Il cherche à éviter toute confusion avec un libéralisme modéré. Les principes critiques faites aux libertariens sont d'avoir une vision, bien sûr, trop sélective du rôle de l'État dans l'histoire et de réinventer l'État de nature. Alors, c'est bien sûr, hein, c'est le côté rousseauiste, presque, dans le paysage. Hein. Sauf que c'est fait d'injustice et de violence. Thomas Hobbes, d'ailleurs, qui, au XVIIe siècle, avait développé l'expression de guerre de chacun contre chacun. Et donc, ça voulait dire que c'est une philosophie politique quand même assez contestable, qui va au-delà d'ailleurs des clivages gauche-droite.
Voilà, c'est ce que je disais avant, c'est difficile de les cataloguer. Hein.
Alors, bien sûr, certaines de ces thèses se situent à gauche en matière de liberté individuelle.
Ils sont pour l'avortement, voilà, pour les droits des minorités comme les homosexuels, par exemple.
La non-répression des drogues par l'État, la liberté d'expression, voilà. La liberté d'immigration, la liberté sexuelle. Mais d'un autre côté, ils sont aussi à droite en matière de liberté économique. Bien sûr, le respect absolu de la propriété privée, le libre-échange, donc finalement le capitalisme sauvage. Hein. Ouais. Suppression ou diminution de la fiscalité, des politiques de redistribution de l'État. Donc tout ça, bien sûr, encore une fois, la loi du plus fort. Avec Max aux manettes, ce sont les minorités qui vont être menacées. En fait, on pourrait parler aussi peut-être là à nouveau du suprémacisme blanc, hein, parce que souvent, c'est là où se tient le pouvoir économique. Et je ne parle pas du patriarcat. D'ailleurs, Elon Musk apparaît comme suspect, ne serait-ce que parce qu'il est d'origine sud-africaine. C'est-à-dire, qui dit Afrique du Sud blanc, ça veut dire favorable à la nostalgie plutôt de l'apartheid. Donc, pourtant, il a pris publiquement position et est connu pour être donateur du Parti démocrate. Hein. D'ailleurs, bon, il est aussi donateur du Parti républicain, Elon Musk. Donc, il rase très large.
Il rase très large.
Bon, on sait qu'Elon Musk n'aime pas beaucoup la censure, les woke, qu'il s'agace de l'unanimisme. On peut le comprendre d'ailleurs, porté par les réseaux, que ce soit sur la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la cancel culture. Alors donc, c'est pour ça qu'on voit avec un peu certaines réticences cette arrivée de la liberté absolue sur Terre, parce que c'est aussi la liberté de dire n'importe quoi. La fragmentation culturelle poussée par les réseaux sociaux, plus encore que la polarisation politique, fait tanguer la liberté démocratique, la démocratie libérale. On disait autrefois, choisis ton camp, camarade. Ben, c'est un petit peu ça aussi, encore de manière absolument exacerbée sur Internet. Mais selon quels critères? J'allais dire surtout, selon quel algorithme? On est vite véhiculé dans un secteur bien précis. Alors, il fait le pari de la liberté d'expression, naturellement, mais il est en même temps un peu, comment dirais-je, en porte-à-faux avec l'esprit du temps, c'est-à-dire que maintenant on a une sorte de retour de l'État. Par exemple, l'Union européenne veut réguler Internet pour pas qu'il y ait les débordements que l'on connaît. Alors, en plus, on imagine qu'on est dans une démocratie absolue, mais l'on voit d'ailleurs la gestion au jour le jour du conflit entre l'Ukraine et la Russie, où la liberté d'expression en prend un sacré coup, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on est très orienté, l'air de rien, vers un camp bien précis. Ce que refutent d'ailleurs des gens comme Elon Musk. Donc, moi-même, je suis assez partagé par rapport à tout cela.
Est-ce qu'on a des hommes politiques célèbres qui sont libertariens? On pense tout de suite à Donald Trump. C'est vrai qu'il est pour un capitalisme sauvage, il est pour la liberté d'expression, il l'a montré sur Twitter. Par contre, c'est vrai qu'un Donald Trump est contre l'avortement, il va stigmatiser les minorités, donc on peut pas dire que ce soit un libertarien. Hein.
Non. Alors moi, je pensais même des fois à Macron, parce que son petit côté, justement, un coup à gauche, un coup à droite. Disons qu'il surfe, je dirais presque qu'il surfe sur le côté libertarien. On n'est plus de gauche, on n'est plus de droite, on trouve une autre solution. On est un peu pour le libéralisme absolu. Et là, on entre dans une période de grande ambiguïté historique sur le plan de la gestion d'Internet, puisqu'on y trouve tout et n'importe quoi. Vous me parliez tout à l'heure en antenne de Wikipédia, par exemple. C'est vrai que je ne vais pas spontanément vers Wikipédia, alors que c'est une source extraordinaire de renseignements, malgré tout. Donc, on peut... Disons que ce qu'il faudrait, c'est pouvoir... Les libertariens nous apprennent qu'il faut avoir toujours le sens critique, mais selon, encore une fois, quels critères?
Les libertariens représentés donc par Elon Musk, dont on parlait à l'instant avec Alain-Jacques Tournard. Elon Musk qui habite peut-être aux États-Unis, mais il est sud-africain d'origine. Eh bien, l'Afrique du Sud, enfin ce qui s'appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud, c'était pas franchement le cas à l'époque. On va reparler d'un épisode assez méconnu par chez nous, hein. C'est la guerre des Boers, hein, qui s'achevait en 31 mai 1902. Ce sera l'occasion de revenir sur un conflit assez particulier, que vous l'entendrez, d'un côté les Anglais, de l'autre côté les Hollandais. Ça va être pour la dernière partie de C'est une autre histoire sur Radio Fribourg.
C'est une autre histoire.
Même Francis Cabrel avait ri jaune à l'époque de la parodie, mais bon, il n'avait pas complètement renié. On en revient à notre leçon d'histoire du jour. Le 31 mai 1902 s'achevait la guerre des Boers. C'est l'occasion de revenir sur un conflit en deux épisodes, dont le premier a débuté en 1880 et qui a opposé, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud, l'Empire britannique à des colons d'origine néerlandaise, allemande et française. Donc vous comprenez déjà que c'est pas simple. Non seulement ces entités cités ne sont jamais arrivés à s'entendre, mais en plus, la découverte d'or au tournant du XXe siècle a suscité la convoitise et rendu la situation tout simplement explosive. Il s'est passé des choses terribles durant ce conflit méconnu qu'est la guerre des Boers. On en parle puisqu'on était en Afrique du Sud tout à l'heure avec Elon Musk. Je pense notamment, dans ce qu'il y a eu de terrible, l'invention des premiers camps de concentration à l'époque, Alain Jacques Tornard.
Et aussi, d'ailleurs, quelque part, on y puise le scoutisme, quelque part, vous allez voir ça. Alors, nous sommes le 31 mai 1902, à la pointe sud de l'Afrique, à Vereeniging, et un traité met fin à une guerre de, à l'occurrence là, de 30 mois, entre les Boers, les Boers. Alors, par exemple, on ne sait pas s'il faut dire les Boers ou les Boers, parce que le mot Boer signifie paysan, donc si on le prononce à la hollandaise, on devrait dire comme cela, mais si on le prononce à la française, on dit les Boers. Il s'agit de la plus dure guerre coloniale qui est eue à soutenir les Anglais, quand même, et entre Européens, c'est ça qui est... Parce que souvent, les guerres coloniales, on les imagine avec des indigènes.
Là, c'est vraiment des Européens qui sont battus entre eux.
Oui, exactement. Ce sont en effet des descendants donc de Hollandais, des Huguenots français qui se sont installés là-bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des noms à consonance française. Ils se nomment surtout aussi Afrikaners, africains dans leur langue, Afrikaans, dérivé du hollandais. Ce sont des gens rudes et solides, et ils veulent par-dessus tout préserver leurs coutumes et leur religion calviniste, sur un territoire d'ailleurs tempéré. L'Afrique du Sud ressemble beaucoup à une partie de l'Europe. Alors, en fait, ça s'est passé en plusieurs étapes. Les Anglais avaient annexé l'ancienne colonie hollandaise du Cap en 1814, et puis les Boers avaient immigré plus au nord. Ils ont été de plus en plus au nord. D'ailleurs, c'est là qu'ils se fritent avec les Zoulous, qui eux descendent vers le sud. Ils prennent pas tellement de territoire à des gens, parce que les Otanto, les Bushimans sont pas très nombreux dans cette région. C'est surtout les Zoulous qui arrivent du nord. Ils vont se confronter et ils vont d'ailleurs les combattre. Et là, en 1843, les Boers fondent la République du Natal, que les Anglais leur enlèvent. Petit à petit, les Anglais remontent, plus au nord. Donc, les Boers fondent la République du Transvaal, l'État libre d'Orange. Orange, vous voyez, c'est les orangistes, la famille hollandaise, toujours cette référence. Pas de chance, en 1886, on trouve de l'or, ce qui fait que tout le monde se précipite vers le nord.
Johannesburg, qui devient une ville tentaculaire.
C'est la ville qui est créée pour l'or. Et Cecil Rhodes, qui est le premier ministre de la province du Cap, donc britannique, décide de mettre la main sur ce territoire-là. Il va d'ailleurs créer au passage des protectorats britanniques au nord du territoire hollandais, le Botswana, la Rhodésie. Alors, il donne même son nom à des territoires, Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud. C'est la guerre. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on utilise le mot commando, c'est-à-dire une sorte de guérilla, c'est les Africains du Sud. Les Européens sont très favorables aux Africains du Sud parce qu'ils se défendent admirablement, un peu comme les Ukrainiens aujourd'hui face à un agresseur. Il va y avoir des dizaines de milliers de morts, y compris d'ailleurs des Noirs africains, parce qu'on va enfermer tous ces gens dans des camps de concentration.
Voilà, avec un certain Robert Baden-Powell, dont le nom vous dit peut-être quelque chose.
Exactement, qui va créer...
L'inventeur du scoutisme.
Voilà, et aussi d'ailleurs Winston Churchill, qui fait ses armes là-bas.
Et qui était tout jeune à l'époque.
Qui était tout jeune, donc on estime à peu près le 25% des Boers qui vont mourir à ce moment-là. Et il va créer une sorte de guide pour ce qui va devenir le scoutisme, justement, pour les guides qui permettaient aux Anglais de pouvoir se mouvoir dans un territoire hostile. Et quand il va revenir, Baden-Powell, au pays, il sera tout étonné que cet ouvrage va servir pour les jeunes. Et donc, c'est pour cela qu'on va créer le scoutisme. Donc, le scoutisme plonge ses origines en Afrique du Sud, dans une guerre absolument abominable, comme quoi il peut y avoir des aspects positifs.
On va parler la semaine prochaine d'archives, Alain Jacques Tornard, avec un invité qui va nous rejoindre très rapidement, qui sera avec nous la semaine
Leonardo
prochaine.
Leonardo Breuillet, archiviste de la ville de Fribourg, parce qu'il y a un anniversaire des archivistes suisses, et puis on fait beaucoup de choses aux archives de la ville de Fribourg.
Et vous-même serez de la fête, évidemment.
Exactement, nous accueillerons le samedi 11, je ne me trompe pas, c'est bien le 11, journée porte ouverte aux archives de la ville de Fribourg.
Et on en parle mardi prochain dans cette émission, c'est une autre histoire. dans laquelle on aime bien recevoir des invités. Léonard Debrouillet avait déjà été des nôtres, hein, il y a à peu près un an. Ça nous fait plaisir de l'accueillir à nouveau. Portez-vous bien, là, Jacques Tornard, d'ici mardi prochain.
Mais vous aussi.
Pour nous raconter d'autres histoires, évidemment.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Alors justement, est-ce que ChatGPT connaît cette émission brillante qui s'appelle Les Neuneux? C'est ce qu'on va vérifier. Virginie, t'as ChatGPT sur ton téléphone en fait?
Et à fond.
Ah ouais?
Et on a fait le... Bah, du coup, j'ai demandé à ChatGPT s'il pouvait m'expliquer ce qu'était un neuneux.
Ouais.
Et ChatGPT connaît le terme neuneux qui, effectivement, dit que c'est une expression familière en français qui signifie simple d'esprit, bah, ou un peu bête ou naïf, ce qui nous correspond
parfaitement,
plutôt bien, d'une manière légère et parfois moqueuse de parler de quelqu'un qui manque de finesse ou d'intelligence. Mais c'est tout nous.
Voilà, c'est ça. Bah, c'est... Cette émission est bien nommée.
Oui, oui, bravo,
ChatGPT. La bien nommée émission des neuneux, bravo.
Bah, il donne un exemple, par exemple, c'est affreux, il est un peu neuneux, mais il est gentil.
Ah ouais, c'est ce qu'on dit
ça,
toujours.
C'est affreux. On dit souvent ça,
non, on est très gentil, hein, c'est
on
vrai. Très...
Oui, alors ça, on a le cœur sur la main. On est effectivement des fois un peu naïf et un peu bête, mais on est gentil. Radio FR. Radio
FR. Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
La bonne nouvelle du jour.
Bonne nouvelle, les mamies se mettent au street art à Lisbonne. Vous n'avez jamais vu une grand-mère faire du graffiti ?
Ah, ça existe.
C'est ça. Ça existe. À Lisbonne, c'est un gang de mamies qui a envahi les rues de la capitale portugaise pour remplir les murs de leurs dessins. Elles ont baptisé leur association Lata 65. Lata, ça veut dire bombe de peinture. Et le groupe a pour vocation...
Donc elles font pas de la pyrogravure sur mur.
Non, ni du macramé, ni quoi que ce soit, mais bien du graffiti. Le groupe donc a pour vocation d'apprendre aux seniors les bases du street art. 100 personnes auraient déjà bénéficié des conseils de ces mamies expertes. De plus, les Lata 65 créent leur propre pochoir. Tu sais, elles découpent comme ça. Après, il y a qu'à sprayer.
Ah ouais, donc
et
c'est
ça fait des jolis motifs.
C'est pas le vulgaire tag avec la signature.
Ça dépend. Il y en a
GM
aussi.
Comme grand-maman, quoi.
Non, mais celles qui sont expertes en la matière peuvent y aller sans pochoir. Et puis les autres qui ont juste envie de sprayer un petit coup dans le pochoir, voilà, elles font comme elles veulent. C'est assez drôle, hein, finalement, de prime abord. Mais leur initiative est un véritable moyen de supprimer les barrières et de rapprocher les jeunes et les seniors en montrant que le street art et le graffiti n'est pas réservé à une seule tranche d'âge. Elles sont aidées de street artistes qui leur servent de guide. Les mamies redonnent donc des couleurs à certains quartiers délabrés de Lisbonne. Respect.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
On a fait une découverte archéologique formidable qui date de 66 millions d'années.
Tu assumes le mot formidable, hein, moi
ouais,
je,
ouais.
je me retire là dans
on
ce
a,
jugement.
A, c'est forcément des fossiles, tu vois. Hein,
oui, bah.
66
merci.
Millions d'années, voilà.
Je suis blonde, mais quand même, reste poli.
T'es blonde à pull jaune quand même, ce qui est encore.
C'est pire,
oui. ça fait ressortir ta blondeur.
Le jaune n'est pas très conseillé pour les blondes. Enfin,
je sais pas si c'était cheveux qui font reflet sur.
Jaune
sur
sale.
Le pull ou le pull qui fait reflet sur les cheveux.
C'est un tout. Après, t'as le rose de la tronche parce que je ris et puis je deviens rose comme un petit cochon très rapidement. Après,
voilà, tout ça pour
on
dire.
On n'a pas
retrouvé
un petit cochon après 66 millions d'années.
Non, ça aurait pu être, je sais pas.
Ça venait peut-être d'un cochon.
Tyrannosaurus rex. Non, c'était du vomi.
Voilà, super.
Voilà,
ouais.
Donc t'imagines si un jour tu fais une grosse soirée et que ça se termine mal, on peut retrouver tout ça dans 66 millions d'années.
Bon, j'ai un peu de peine à.
C'était Virginie.
À imaginer.
Elle ne supportait pas. Radio Fribourg. Réalisé par un amateur dans les falaises de Steven, donc à Copenhague, un promeneur qui a vu des fossiles et il s'est dit qu'est-ce que c'est que de beau, et on a retrouvé donc des fossiles de vomitons,
ouais, non,
voilà, d'un petit animal,
voilà
un petit poisson qui vécut heureux il y a 66 millions d'années et qui mangeait des lits de mer, LIS, hein, pas, il mangeait pas des lits Ikea,
pas
un petit poisson qui bouffe des litières. Alors voilà.
Et donc, c'est incroyable qu'ils aient pu analyser tout ça.
Mais comment tu arrives à déterminer?
C'est du vomi.
C'est du vomi.
D'un poisson.
D'un poisson.
Qui a bouffé des lits. Il y a a 66 millions d'années. Ah, bah, ah mais ça, c'était tout un métier. Hein.
Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, dans les 66 autres prochains millions d'années...
Qu'est-ce qu'on va retrouver?
Ah, mais alors, la fameuse Virginie, c'est... en plus du ginto, elle avait quand même descendu une vodka.
Radio FR. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Ils viennent d'un pays merveilleux, la Baltie. Voici les aventures de Janine et Bernard.
Non, Janine, t'es cool, ciao.
Et Bernard, t'es cool, ciao. Ça va, t'as pas trop le trac, ou bien?
Ouais, mais alors je peux te dire, avoir été sélectionné pour aller jouer aux lettres sur la FR3, alors moi, franchement, je suis tout ému. Hein.
Eh ben, moi, j'ai les chocottes.
Allez, hop, l'émission, elle va commencer. Viens, on va dans le studio.
Full gas.
Bonsoir et bienvenue aux lettres et aux lettres. Nous avons deux paires de candidats. Ce soir, nous accueillons Janine et Bernard.
Et bonsoir, super.
Janine et Bernard, vous venez de la Baltie.
Ouais, super la Baltie.
Super quoi.
On adore.
Hein, ouais, ça, ouais. On vous invite quand vous voulez. Hein.
Et à ma droite, deux candidates qui viennent également de la Baltie. Ce soir, nous sommes servis avec Monique et Yolande. Bravo Monique et Yolande.
Bonsoir.
Ben, je vous propose de passer à la première manche directement. Ouais.
Ben pourquoi pas, on est venu pour ça aussi, hein.
Pour gagner, hein.
Non, cool. La sélection des lettres peut commencer.
Voyelle.
Hein?
Voyelle.
A.
Consonne.
P. Consonne. N.
Voyelle.
O. Allez, consonne. T.
Voyelle.
O. Consonne. P.
Eh ben moi j'ai quelque chose, Dodo. Eh, mais colle, 5 lettres, banté. Facile.
Alors, Panté, est-ce qu'on peut vérifier?
Écoutez, je suis désolé, mais je ne trouve rien sous Panté.
Moi, en tout cas, j'ai Popotin, et puis il y a deux lettres de plus. Et...
Popotin est accepté. Bravo, c'est la deuxième manche que remportent Monique et Yolande. Félicitations.
Mais donc, là, ça commence à être faux, hein.
Panté, tout le monde sait que c'est une chemise ou bien un angle de bleu.
Ouais, mais un angle que, c'est cool.
C'est des moulafs. Allez, Bernard, on se concentre.
Pas perdre la suite. C'est parti pour une nouvelle manche avec Bernard et Monique.
Alors, moi, je propose une voyelle.
Hein?
Ouais, la même chose.
U.
Voyelle.
I.
Ouais, qu'on sonne alors, changer, hein.
T.
Oh, je reste la voyelle.
O.
T'en sonne.
V.
Qu'on sonne.
G. Voyelle.
O.
Qu'on sonne.
Z.
Voyelle.
N.
Celui-là, j'en ai un super. Alors, je peux te dire, t'es cool, vous n'êtes pas prêts de l'avoir, hein. Parce qu'en plus, il a 7 lettres. C'est Vigoutz. Vigoutz, ça vous avez pas pensé, hein.
Vigoutz, c'est ce qu'on peut vérifier.
Vigoutz, j'ai vigueur, j'ai vigoureux. Non, je n'ai pas Vigoutz, je suis vraiment désolée. Non, je ne peux pas accepter Vigoutz, non.
Eh ben moi, j'en ai une, hein. C'est en 10 lettres.
Bravo.
J'ai Zigounette.
Zigounette est acceptée. Bravo, félicitations. Une fois de plus, Monique et Yolande remportent la manche. Franchement, on va les tuffler.
Ça commence à venir gros. Deux fois, d'accord, mais trois fois, faut pas exagérer.
Non, alors là, ça devient un scandale. Hein. Franchement, moi, je dois...
Calmez-vous un petit peu, s'il vous plaît, Janine et Bernard. Ça ne sert à rien de s'énerver. Pour l'instant, de toute façon, vous êtes menés largement.
Hop, suivante la manche, alors.
Alors, c'est le moment de la quatrième manche. C'est donc Yolande et Janine.
Eux, ben alors qu'on soigne.
L.
Kangson.
Z.
Voyelle.
E. Kangson. T.
Qu'on soigne.
B.
Voyelle.
O.
Ben voyelle.
E.
Vous avez une proposition, Janine et Bernard?
Eh ben, je pense bien, donc. Tu crois quoi, celui-là? Donc, on a bossé, bien sûr qu'on a une proposition. 5 lettres.
Eh ben nous, on en a que 3.
Eh ben voilà, c'est ce qu'on disait, on est les meilleurs. De toute façon, on est les meilleurs. Alors, 5 lettres, on a Blitz. C'est accepté, ça, ou bien?
Blitz, non, excusez-moi, nous n'avons jamais rencontré ce mot-là. Blitz, attendez, je regarde.
Moi, j'ai baise.
Non, mais c'est un scandale. C'est 3 lettres, de toute façon, ça joue pas.
Oui, effectivement, il y a une faute d'orthographe. B-E-Z, ça ne fonctionne pas. Enfin, de toute façon, c'est match nul. Mais c'est quand même Monica Yolande qui emporte très largement ce jeu ce soir.
Les éditions Le Robert vous offrent Le Petit Robert et Le Robert encyclopédique et non propre 2009, accompagné de dictionnaires de la collection Les Usuels.
On va pas nous dire qu'on ne sait pas parler le français encore, ou
bien. Non, mais s'il vous plaît, bien.
Non, mais oh.
Non, c'est de moté. Pour trouver plein de mots, ben alors tout a été refusé. Non, Janine, franchement, madame, on doit loin. C'est quoi, Janine? Moi, je vais écrire une lettre à la direction, hein. Parce qu'alors, ces lettres, c'est n'importe quoi, hein. Moi, je vais écrire une lettre pour me plaindre, mes couilles.
Ouais, ouais, Bernard, t'as bien raison. Écris la lettre Q, hein. Au moins, celle-là, ils la comprendront.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Fribourg.
Radio FR.
Jamais sans.
Grégory Cobb, le retour.
Mais bonjour, Mike.
Comment tu vas, Grégory? Bon, moi, ça va bien. Je suis content de t'accueillir en ce vendredi.
Ouais, moi, ça va bien. Moi, je voulais te parler ce matin d'un aspect un peu particulier de ma personnalité. Peut-être que ça saute pas aux yeux à première vue, mais je suis ce qu'on appelle un bon vivant.
Ben oui, quand même, un humoriste.
Ouais, mais c'est vrai que j'ai pas le visage le plus jovial du monde. Et déjà, je trouve que l'expression, elle est un peu curieuse, elle est un peu paradoxale, parce que un bon vivant, c'est quand même un gars qui va consommer des choses qui le rendront pas vivant bien longtemps. Tu vois, personne n'a jamais dit « Ah, Julien, c'est un bon vivant. Hein. Ouais. Tu lui mets des carottes râpées de l'ailier, ça fait pas long feu. Hein. » Non, mais pour moi, une soirée entre amis à manger, à boire des coups, c'est pour moi l'antichambre du paradis. Après, je te cache pas, Mike, que ma vie est laide. Parce que depuis plusieurs années, j'habite dans le Vuilly fribourgeois.
Ah ouais?
Oh mon Dieu. Ah, ouais. Oh mon Dieu. Tout est bon dans cette région. Tout est bon. En revanche, tout dans cette région essaye de te rendre soit diabétique, ouais, soit alcoolique.
C'est terrible.
Et je peux vous dire que si vous venez vous y balader, il y a des preuves que ça fonctionne.
On viendra.
Ouais, j'adore cette région. J'adore cette région parce qu'ils ont des coutumes qui te facilitent la vie. Par exemple, auparavant, quand j'invitais des potes à la maison, je savais jamais combien il fallait prévoir de bouteilles de vin pour le repas. Est-ce qu'il y en a un qui boit beaucoup, l'autre moins? Enfin, tu connais, quoi, c'est embêtant. Ouais. Ils ont une coutume très simple au Vuilly pour savoir combien de bouteilles il faut prévoir, compte les invités.
Ah ouais? Une bouteille par invité?
C'est ça.
Ah
bon, c'est une bonne moyenne.
Ça va, c'est large.
Et honnêtement, hein, ça se tient. Et ça peut aider aussi. Si le lendemain, tu te souviens plus qui était là, compte les bouteilles.
Ah ouais.
Et tu les nommes. Et t'arrives à te refaire le fil de la soirée. C'est très bon pour la mémoire. Et comme tu le sais, quand je mange, si j'ai le choix, souvent, il va y avoir de la viande.
Ah ouais.
Même si je sais que certains pensent que l'humain devrait abandonner la viande complètement. Après moi, comme j'ai déjà dit, je suis pas complètement opposé à l'idée. Et d'ailleurs, il y a même un truc qui me ferait assez marrer et qui me motive un peu, c'est que si l'être humain abandonne la viande, forcément, notre dentition, elle va muter au fil des années. Et ouais, imagine-toi dans 300 ans, des gens se prendre en selfie, tout sourire, avec que des molaires.
Quelle horreur. On aura des estomacs ruminants, peut-être aussi. Hein.
C'est possible, c'est possible. Et le dernier point sur lequel j'adore ces soirées, c'est en fait, c'est à cause de ma chérie. Je suis pas très gentil, mais elle a un problème, c'est que dans les discussions, souvent, elle dit des expressions. Elle les dit fausses. Et elle, en fait, elle fait des erreurs et elle se pose vraiment au croisement entre l'erreur et la créativité.
Ok.
Je vous ai fait un petit,
ouais,
un petit best-of, notamment la fameuse expression avoir le cul entre deux chemises.
C'est pas mal.
Franchement, tu mets quelques neurones, elle est presque poétique. Tu vois, t'as une personne qui hésite entre deux hommes pour une relation, avoir le cul entre deux chemises, c'est pas sûr. Il faut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors soit on est dans de la prétention, hein, ça pourrait être Raymond Domenech avant le match France-Suisse il y a quelques années, soit c'est de l'arnaque pure et simple.
Ouais.
Une fois on était en retard, je la stressais un peu et elle m'a dit, tu sais, rien ne sert de marcher. Il faut partir plus tôt.
C'est pas mal, ça.
Alors, celle-là, elle veut rien dire. Après, je vous garantis, ma femme, c'est pas la seule à faire ça. J'ai ma sœur qui est aussi dans ce créneau. Un soir, tout énervée, pleine de convictions, elle a lancé un magnifique. Dis donc, faudrait quand même pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards laqués.
Alors là,
ah, ça c'est énorme.
Alors là, j'ai dit, je vais quand même aller voir le sens de l'expression parce qu'on pourrait tendre vers le racisme. Je sais pas.
Vous étiez en retard pour aller manger chinois.
Non, je sais pas. Mais je vais vous laisser sur ces mots parce que je vous cache pas, bah, c'est bientôt le week-end et ce soir on est 12 pour l'apéro. Faut que j'aille acheter deux cartons. Ah bah, comme on dit chez nous, hein, c'est pas au vieux singe qu'on va apprendre à faire la limace.
Génial. Grégory Coe, merci à toi et à ta famille, source d'inspiration ce matin. Hein.
Merci à toi.
Et à très bientôt sur Radio Fribourg.
Radio FR.
Jamais sans.
Vos best-of tout au long du week-end. Lato et Lou.
Radio FR. Hey. Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Bon, il y a un problème dans le gouvernement français. Il y a Doudou, le coq du gouvernement, nommé en hommage à Édouard Philippe, qui a disparu. Il était tranquille dans les jardins de la rue de Grenelle à Paris. Et le coq est parti. Où est donc passé Doudou ? Aucune piste n'a été avancée par la criminelle pour expliquer cette mystérieuse disparition de volatile. Bon, faut dire que c'est tout un symbole hein, pour le gouvernement. Ce coq noir, c'était un cadeau de l'ex-premier ministre Édouard Philippe à Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Et ça fait plusieurs années que ce coq se balade tranquille dans les jardins du gouvernement. En plus, on avait offert une poule à ce coq. Écoutez Christophe Castaner.
Du poulet, en fait, quand j'ai été élu délégué général de la République en marche, le Premier ministre était là. Et à la fin, il monte sur scène. Et donc, j'étais équipé avec deux micro-cravates comme là. Je pensais que les micros étaient coupés. Je me penche vers lui et j'avais envie d'avoir son